na 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 na. Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver, Jean-François Martinez au micro, pour une nouvelle émission de « Si l'on en parlait ». Et aujourd'hui, je me trouve avec Thibaut Michel, qui est le responsable, il nous en parlera tout à l'heure, du domaine de Rieucoulon. Le domaine du Rieucoulon, c'est juste le dernier domaine de Montpellier, en direction donc de Saint-Jean-de-Védas, à côté du fameux rond-point
de Rieucoulon.
Donc, Thibaut...
Bonjour.
Bonjour. Alors, comment ça se passe au domaine du Rieucoulon ? Quelles sont tes activités ?
Mon activité principale, c'est la gestion du lieu pour la partie événement. C'est-à-dire qu'on accueille tout type d'événement, que ce soit privé ou professionnel. Et donc, on a retapé le lieu pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir accueillir du public, pardon, et développer du coup une activité économique sur l'événementiel.
D'accord. Parce qu'au départ, j'aurais dû d'ailleurs commencer peut-être par là, le domaine du Rieucoulon, c'est quand même une folie du XVIIIe siècle.
Hein, donc, totalement.
On se rappelle à peu près de une trentaine de châteaux ou de bâtisses autour de Montpellier qui ont été construits donc, au XVIIIe siècle. C'est magnifique. Donc ça se situe vraiment au rond-point donc, du Rieucoulon.
Tout à fait.
Et la propriété part de là et elle s'en va donc direction Montpellier par derrière, hein, direction nord.
Donc là, et aussi par les vignes de l'autre côté, du côté Saint-Jean-de-Védas.
Du côté de Saint-Jean-de-Védas, on en reparlera tout à l'heure. Fait. Donc le domaine du Rieucoulon, c'est le domaine, c'est quoi après ?
Alors le domaine, ça regroupe plusieurs activités. Il y a la première... qui vient en tête de Montpellierains qui connaissent, c'est la partie viticole. Donc on est producteur de vin.
D'accord. Vin rouge, rosé, blanc.
On fait les trois. On a trois blancs, deux rosés, cinq rouges.
D'accord. Et là, les vignobles sont où ? Donc autour du domaine.
Tout autour du domaine côté Montpellier.
Côté
et
Montpellier.
Aussi côté Rocade, côté Saint-Jean-de-Védas.
Côté Saint-Jean-de-Védas, alors, d'accord.
Il y a 25 hectares en tout.
Oui, ok.
Donc petite exploitation, mais on tient à rester encore un des derniers producteurs montpelliérains de vin. Voilà.
D'accord. Et là, alors on parle de ça vite fait, parce que vous parlez de la rocade, est-ce que vous allez être quand même touché par le fameux COM qui va se faire dans quelques années ? Je suppose que oui.
Et oui, tout à fait. Parce que de par nos vignes qui touchent, qui bordent la route actuelle, on va forcément et nécessairement être touché par ce projet autoroutier.
À peu près combien de pertes ?
Pour l'instant, c'est évalué, on ne sait pas trop, mais ça serait entre 8 et 10 hectares à peu près.
D'accord, sur les 25
sur les 25 en
existantes.
Tout, ouais. Ouais.
D'accord. Donc, du vin, du rouge, du rosé, du blanc,
tout à fait.
De la Carthagène. Alors, je rappelle pour nos amis auditeurs que la Carthagène, donc, c'est un apéritif. Hein, on peut le prendre en apéritif.
Ou en dessert.
Ou en dessert.
C'est très sucré.
C'est très sucré, c'est à base de blanc et c'est une spécialité un peu de chez nous, du moins de l'Hérault.
Oui, c'est une méthodologie de fermentation qui est différente et qui donne un vin très très doux, très sucré, qui passe en apéritif, mais plutôt en dessert ou alors en tournormand parfois.
D'accord, très bien.
Un peu facé.
Donc on peut acheter, on peut goûter ces vins
tout
directement. Explique-nous, au caveau.
Tout à fait, le caveau est ouvert du mardi au samedi, et vous pouvez venir, vous pouvez venir comme ça sans rendez-vous en dégustation,
oui.
Et vous pouvez aussi prendre rendez-vous si vous êtes plusieurs et que vous voulez organiser une dégustation pour un peu plus pour des groupes, c'est tout à fait possible, je suis au rendez-vous par téléphone.
D'accord, très bien.
Et le caveau est ouvert du mardi au jeudi le matin, de 10h à midi, et ensuite vendredi, samedi, matin 10h, midi aussi, et 15h, 18h l'après-midi.
Bon, mais c'est très bien. Donc,
voilà. Tenu par Anne et Benoît Lacombe qui accueilleront à bras ouverts
d'accord, très bien.
Sur cette partie-là.
Alors, le domaine, donc, on l'a vu, il y a l'aspect viticole. Je sais que, pour l'avoir visité, il y a une petite chapelle qui est magnifique.
Tout à fait. Ouais. Alors, qui est fermée au public, hein, mais qu'on peut visiter sur demande.
Ouais. Et ça, elle a été faite par qui, ça ?
Alors, c'était au moment de la construction, donc en 1792.
Elle date de...
Alors, exactement, grosso modo, c'est fin 18e, début 19e.
D'accord.
Parce que avant que ce soit un domaine viticole et avant que ce soit un lieu qui reçoit du public, le domaine de Rieucoulon, c'était d'abord une maison de nobles parisiens,
oui.
qui venaient ici en vacances. Et ensuite, c'est venu une exploitation agricole si je ne me trompe pas, avec des vergers, des potagers et une partie de vigne un peu plus tard. Et du coup, ben, il fallait loger et nourrir toutes ces personnes qui travaillaient à l'époque sur le lieu. Et, aux dernières nouvelles, si je m'en tiens bien à ce que j'ai bien lu, il y avait plus de 90 personnes, plus de 90 ouvriers agricoles sur le site, qui avaient une vie aussi, une foi, et à l'époque, ben, ça marchait comme ça. Donc, la chapelle a été bâtie, je pense, on soupçonne, pour que ces gens-là puissent avoir leur vie.
Oui, bien sûr. Parce que les églises étaient quand même beaucoup plus rares à Montpellier.
Déjà, puis il faut s'imaginer qu'à l'époque, Rieux Coulon, c'était totalement excentré de Montpellier. C'était pas dans Montpellier comme on peut l'appeler aujourd'hui. Jusqu'à pas si longtemps, les vignes bordaient aussi tout ce qui est autour du Mas du Puy, du Mas Nouguet. Il n'y avait pas de construction. Donc,
et de l'autre côté, sur l'Ovalie.
Voilà, et il n'y avait pas de voiture.
20 ans, l'Ovalie, c'était les terrains où venaient paître les chevaux.
Exactement, hein, exactement. Et il n'y avait pas de voiture.
Il n'y avait pas de voiture.
Et je pense qu'à cette époque-là, les ouvriers n'avaient pas de calèche. Donc pour se déplacer, pour aller par exemple à la cathédrale, je pense qu'il leur fallait une bonne heure et demie de marche. Quoi. Donc,
bien.
Peut-être plus. Bien. Donc, peut-être que les propriétaires ont aménagé ça pour plus de facilité.
Cette petite chapelle, on peut la visiter ou pas? Non, elle ne se visite plus.
Non, elle ne se visite pas.
C'est la propriété, donc des propriétaires.
Hein, voilà. Exactement.
Donc, après, il y a encore il y a des bâtisses qui doivent servir peut-être à de la location.
Tout à fait.
Pour vous avez certainement des locations saisonnières.
Tout à fait.
Des gîtes.
La bâtisse se divise en plusieurs parties. Il y a d'abord des bâtiments agricoles historiques qui sont encore utilisés pour du stockage, tout simplement. Ensuite, il y a une partie de cette bâtisse qui a été rénovée pour faire des petits studios. Donc, il y a 3 studios qui sont saisonniers, donc qu'on peut louer à la semaine, au mois, à l'année, quand vous êtes de passage ou pas. Il y a maintenant depuis quelques années aussi des bureaux d'entreprise. Donc on a quelques entreprises qui ont élu leur bureau sur place.
D'accord.
Moyennant une rénovation de ces fameux bâtiments, effectivement. Et après, une partie privée, d'habitation privée en location.
D'accord. Parce que les propriétaires actuels,
oui,
ce sont des gens qui n'habitent pas sur la région.
Non, ils n'habitent pas sur la région. Ils habitent même à l'étranger. Mais ils tenaient à garder ce domaine dans la famille et ont investi du coup pour que ça reste privé.
Mais ça doit être quand même un sacré boulot parce que alors l'aspect vignoble tu t'en occupes pas, je crois.
Non, après je travaille avec eux en synergie évidemment.
En synergie. Mais sinon il y a un responsable, on va dire, exploitation.
Exactement.
Un responsable d'exploitation de tout ce qui concerne la vigne.
Tout à fait.
Et donc toi, alors tu as un master.
Oui, tout à fait. Un master en école de commerce.
À l'école de commerce, donc effectivement, tu es dans ta voie là.
Ouais.
Et comment tu es arrivé, Biterrois de naissance,
tout à fait.
Comment tu es arrivé au domaine du Rieux Coulon?
Eh ben, c'est une grande chance et un grand hasard en même temps. C'est que ces fameux propriétaires, je les ai connus totalement dans un cadre privé pendant un voyage à l'étranger, et avec qui j'ai gardé contact depuis chaque année pendant des années. Et un jour, j'étais un petit peu en difficulté pour trouver du travail, comme beaucoup, et j'ai envoyé mon CV à ces personnes qui avaient un réseau international, et moi, ça me plaisait de pouvoir travailler à l'étranger. Et sauf que, donc du coup, j'ai envoyé mon CV pour un petit coup de main privé, réseau et networking, comme on dit aujourd'hui. Et, et en fait, ils avaient déjà ce projet de transformer une partie de Rieux Coulon en partie ERP, accueil d'événements. Et il leur fallait quelqu'un de qualifié et de confiance. Et par chance, je remplissais ces deux cases. Et quand ils m'ont proposé ça, j'ai sauté sur l'occasion, évidemment. Parce que c'était,
Et là, tu y es donc au domaine du Rieux Coulon depuis ?
J'y suis depuis 2017. Et après, on a travaillé sur le pré-projet pendant 2 ans avant 2017, donc quasiment 2015.
Et avant, tu travaillais dans la communication ?
Avant, j'étais dans le commercial, communication, sur des entreprises Montpellier-Rennes.
Ça a dû te changer un petit peu, parce que là, tu es vraiment seul aux manettes.
Là, je suis seul aux manettes. Hein, et ce qui est génial, c'est que c'est un projet qui n'était... Enfin, je ne suis pas arrivé, le domaine était là, quoi. Enfin, le domaine était là, mais pas dans l'état où il est aujourd'hui.
Ouais.
Et donc, c'était une opportunité superbe pour moi, en termes de carrière professionnelle, de monter un projet de A à Z, quoi. Et de la naissance jusqu'à aujourd'hui, quoi. Donc du coup, c'était vraiment très intéressant, ça l'est toujours, sauf qu'aujourd'hui on est sur une dynamique maintenant vraiment de développement commercial, mais pendant, il ne faut pas oublier que pendant 4 ou 5 ans, il y a une dynamique de valorisation de patrimoine, vision stratégique, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on va faire du domaine dans les 10, 15 ans à venir, 20 ans à venir, pourquoi on rénove de cette façon et pas d'une autre, hein, pourquoi ici on fait telle salle de réception avec tel mobilier plutôt que... plutôt aménager un espace extérieur, etc. Tout ça baigné évidemment dans une, dans des, c'est pas des contraintes, mais dans des, dans un cahier des charges où quand on accueille du public, c'est pas comme si c'était une rénovation à titre privé.
Bien sûr.
Donc il faut respecter des règles, des normes, des accès pour.
Et là, vous travaillez avec quoi, avec en direct avec les services de la métropole.
Oui, la métropole. PLU essentiellement pour la partie permis de construire.
Oui. Et les après les monuments historiques peut-être.
Non, alors ça non, on n'en fait pas partie.
Pour la chapelle.
Ouais, même pour la chapelle, on n'en fait pas partie.
D'accord.
Mais c'est quelque chose qui sera pas, enfin qui est pas problématique en soi, et surtout qu'on peut travailler avec eux à n'importe quel moment. Mais là, essentiellement sur le projet événementiel, c'était PLU permis de construire avec la mairie. Et après là, dans ces projets de telle envergure, il faut quand même s'équiper de partenaires privés aussi. Donc là, on a pris un bureau de contrôle indépendant qui nous a aidés parce que eux, ils ont l'expérience, hein, ils ont les contacts qu'il faut aussi. Pour pouvoir être aux normes, tout simplement. Quoi.
Et là, vous avez prochainement des projets en immobilier ou pas ?
Non, alors là, on a atteint une troisième phase de rénovation. La rénovation s'est faite en trois phases. On a une première phase rez-de-chaussée extérieure pour l'accueil public de base, basique. Hein. Ensuite, on a eu un projet de chambre. On a réalisé, parce qu'il y avait déjà des chambres existantes, mais on ne savait pas si on les transformait en espace de travail supplémentaire ou en chambre vraiment à proprement parler. On les a transformés en chambre pour la partie mariage, notamment pour une partie des personnes puissent dormir sur place.
Il y a cinq chambres,
chacune à sa salle de bain privée, etc. Donc on est chambre d'hôte.
C'est magnifique. Hein.
Voilà, on est chambre d'hôte, mais on n'a pas le fonctionnement d'une chambre d'hôte dans le sens où les chambres sont réservées qu'aux personnes qui louent le lieu pour les événements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tiers qui viendra dormir dans les chambres pendant un événement. C'est un non-sens.
Les cinq chambres donc, dont tu parles, Thibaut, qui c'est qui a fait le choix ? Parce que j'ai eu l'occasion de les visiter.
Oui.
Elles ont une histoire. Hein. Tout à fait.
Elles sont chargées d'histoire. Parce que, mais pour plein de raisons, elles sont chargées d'histoire déjà par le temps. Elles sont là depuis le milieu du 19e. Donc, il y a peut-être eu des aménagements. Ça, on a les vieux plans, mais on a peut-être pas les plans qui remontent jusqu'au tout début. Mais la partie chambre est là quand même depuis très longtemps. Elles ont été réaménagées pour que ça corresponde à du standard haut de gamme. Et donc, on a fait quelques réaménagements. Parce qu'elles ont chacune leur salle de bain, ce qui n'était pas le cas initialement. Donc du coup, il a fallu faire des réaménagements. Et surtout, les chambres font partie intégrante maintenant de la réflexion économique sur comment on commercialise le lieu. Et ça nous a quand même beaucoup aidé.
C'est-à-dire, si tu peux continuer ton...
C'est que dans le raisonnement, si on va jusqu'au bout, la demande d'hébergement, elle est quand même présente, même si elle peut pas combler tous les invités. Elle est quand même présente parce que ça permet aux personnes... alors, sur la partie mariage, ça permet aux mariés et aux parents, aux beaux-parents, de rester sur place sans devoir louer un hôtel, même s'il n'est pas loin, à proximité. Donc, c'est quand même un confort supplémentaire. Mmh. Et la seconde, c'est aussi pour la partie professionnelle, quand il y a des séminaires d'entreprise et qu'il y a des intervenants externes qui viennent d'un peu loin, ça permet de loger aussi les intervenants sur place et d'avoir une formule all-inclusive quasiment pour nous, plutôt que l'inverse, quoi. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on sait parfaitement, on est obligé de s'adapter à l'existant, on peut pas faire plus de 5 chambres. Sinon, il faudrait faire des extensions de bâtiments, et là, c'est pas pareil. Donc, on a quand même développé aussi des partenariats avec des hôtels dans Montpellier pour pouvoir justement répondre à une demande. S'il y a 80 personnes qui ont besoin d'être logées, on peut le faire.
D'accord. Voilà. Alors, justement, là, tu travailles seul ou tu as un staff avec toi ?
Non, je travaille seul la plupart du temps. Mm-hmm. Après, l'activité augmente quand même sur la haute saison, donc de avril à octobre.
Et là, d'avril à octobre,
voilà,
d'accord.
C'est ça. Et là, je m'entoure de personnes saisonnières ou alors auto-entrepreneurs qui viennent me donner la main, mais voilà, avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. Donc on a une équipe qui se développe.
Alors, on a encore le temps avant de faire la pause musicale. les activités, on va dire, en public relation.
Ouais.
Alors, nous avons les séminaires, après on va développer, ouais, les séminaires d'entreprise.
Tout à fait.
Les mariages.
Oui.
Et je pense aussi les manifestations.
Tout à fait.
Que vous réalisez.
Que nous, on organise nous-mêmes, événements publics.
Événements publics l'été. Voilà. Alors, celle qui te prend le plus de temps, ça doit être les entreprises, non ?
Exactement. Les entreprises, c'est celles qui... Les entreprises, de toute façon, représentent une grosse part des revenus de Rieux Coulon.
Sur une journée ou ça peut tout. Être... Oui, puisque vous avez des chambres, vous pouvez le faire.
Exactement.
Sur,
après, sur c'est vrai que je vois depuis maintenant 2 ans, la tendance est quand même soirée d'entreprise.
Ouais,
la soirée d'entreprise, c'est ce qu'on fait de plus en plus.
D'accord.
Voilà. Et là, ça peut être pour n'importe quel événement. C'est souvent au mois de juin parce que c'est le moment avant les grandes vacances et le break de l'été. Mmh. Et là, on a beaucoup d'entreprises qui viennent célébrer soit un lancement de marque, soit un remerciement de l'année en général, global, interne ou externe, ou les deux. On a déjà des entreprises qui fêtent leurs clients et leurs collaborateurs en même temps. Des anniversaires. On a fêté les 100 ans d'une entreprise l'an dernier. Local, donc très bel événement et qui nous a tenu à cœur aussi dans l'organisation. Et après, parfois, c'est juste tout simplement pour faire la fête parce que post-Covid,
pour décompresser,
parce que, plein de raisons.
Ouais. Des formations aussi, formation sur le management,
oui, formation. Alors ça, c'est plutôt sur des formats journées. Ça arrive qu'on ait des soirées.
Journées, ouais.
Mais généralement, quand on le fait en soirée, ça arrive souvent qu'on fasse 2 heures de conférence et ensuite ça finit par un cocktail. Mais il y a rarement le côté festif ensuite.
Le cocktail, voilà. C'est vous qui le faites ou... je suppose qu'il n'y a pas de cuisine à proprement parler.
Non, on a une cuisine mais qui sert d'office traiteur, quand ils ont envie de l'utiliser. Voilà. Mais
notamment à mariage.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Mais on fonctionne qu'en traiteur. C'est-à-dire que nous, on ne maîtrise pas la partie hygiène. L'activité économique, la gestion de l'entreprise me prend beaucoup trop de temps pour que je puisse aussi me lancer dans l'investissement de restauration, etc. Donc pour l'instant, on fonctionne qu'en tertiaire.
D'accord. Et en ce qui concerne donc les entreprises, est-ce que c'est en plein développement ? Est-ce que tu remarques une courbe montante de ton chiffre d'affaires ?
Oui, alors ça je le remarque, mais notamment depuis 2022. En fait, le Covid avait gelé beaucoup de budget sur la partie pro. Et il y avait des entreprises qui débloquaient des budgets rapidement. Il y en a d'autres qui ont débloqué qu'à partir de moitié 2022. Donc 2023 était une super année pour nous. 2023 était vraiment super. Sur la partie professionnelle. Donc oui, depuis la fin entre guillemets du Covid, on voit quand même une multiplication des demandes sur la partie professionnelle. Ça oui. Contrairement à 2020, entre 2020 et 2022, c'était beaucoup plus calme. Et c'est là qu'on a créé nos événements publics, si tu veux qu'on en reparle après. Mais pour justement pallier à ce manque à gagner avec les pros et les mariages.
D'accord. Voilà. Ben on va écouter, donc on va faire la pause musicale. Et donc on va écouter la chanson que tu as choisie. C'était alors dur. LCD Sound System New York, I Love You. Alors c'est quoi ? Tu as choisi ça parce que c'est une chanson qui te plaît.
C'est
raconte-nous un peu.
C'est difficile, mais enfin le choix était dur.
Le choix était dur.
Quand tu m'as demandé une musique, c'était dur. Mais LCD Sound System, c'est un groupe que j'aime beaucoup depuis que j'ai 16 ans.
Ouais.
Et New York, I Love You, parce que mon esprit romantique n'a rien à voir avec le reste de ce qu'ils font, a animé beaucoup de mes matins café.
D'accord.
J'adore la douceur de cette chanson et encore plus elle a eu du sens quand je suis rentré dans New York avec cette musique, dans mes oreilles.
Eh bien écoute, c'est très bien. Thibaut, donc on va écouter ton choix et on est toujours sur Radio FM+. On l'écoute.
New York, I love you, but you're bringing me down. Like a rat in a cage, pulling minimum wage. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, you're safer, and you're wasting my time. Our records all show you were filthy but fine. But they shuttered your stores when you open the doors to the cops who were bored once they'd run out of crime. New York, you're perfect, oh please don't change a thing. Your mild billionaire mayor's now convinced he's a king. And so the boring collect, I mean all disrespect. In the neighborhood bars I'd once dreamt I would drink. New York, I love you, but you're freaking me out. There's a ton of the twist, but we're fresh out of shout. Like a death in the hall that you hear through your wall. New York, I love you, but you're freaking me out. New York, I love you, but you're bringing me down. New York, I love you, but you're bringing me down. Like a death of the heart. Jesus, where do I start? But you're still the one pool where I'd happily drown. Still exists. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe I'm wrong, and maybe you're right. Maybe you're right. Maybe I'm wrong, and just maybe you're right.
Voilà, et bien après New York, on revient donc dans les studios d'FM+. Et là, on va donc toujours se déporter sur le Rio Coulon. Donc, on parlait juste avant la pause musicale, on parlait donc de ton activité principale, de l'activité principale hormis la vigne.
Oui.
On va dire de public relation. Donc ça, on va dire, c'est dans la période, on va dire, plus ou moins professionnelle. Mais l'été, qu'est-ce que vous faites de beau l'été ? Je sais que l'été, vous faites le soir, à la fraîche, si on peut dire à la fraîche. Vous avez des activités toujours magnifiques dans cet endroit somptueux du Rio Coulon, parce que c'est vraiment magnifique.
C'est vrai que le Covid nous avait quand même, comme à tout le monde, a impacté sévèrement l'économie, en tout cas notre activité pour nous. Et pour l'avantage du Covid, nous a permis de se réinventer, mais d'accélérer des choses qu'on avait en tête. Enfin, en tout cas, moi, j'avais en tête. Et du coup, on a créé nos propres événements qu'on a appelés les guinguettes, tout simplement. Et maintenant, je pense qu'on est des dizaines à le faire chaque été, à chaque jour de la semaine. mais c'est pas grave. Donc du coup, on a créé ça. Donc c'était un concept très simple, c'était de vendre le vin du domaine. C'était notre seule source de rémunération en échange d'un accès sur le lieu pour une soirée, pour les gens.
C'est les soirées à thème ou pas ?
Non. Non. C'était vraiment l'idée. C'est alors, il faut se souvenir que quand on a créé ça, c'était en 2020 et qu'on avait pléthore de propositions. Pas de propositions, de contraintes d'organisation.
D'accord.
Qu'il y en a qui se souviennent pas, mais il fallait qu'il y ait un mètre entre chaque personne par table. Il fallait que les tables soient séparées de 3 mètres. Il fallait porter le masque quand il fallait se lever pour la. Bon, bref. Donc nous, l'avantage de Durieux Coulon, effectivement, c'est qu'on a 2 hectares de parc exploitable. Et ça nous a vraiment permis de mettre en place ces événements en toute sécurité. C'est-à-dire qu'on pouvait accueillir 300 personnes sur 2 hectares. 300 personnes, c'est presque rien du tout, quoi. Donc on a pu mettre les tables et les chaises à la distance qu'il fallait. On a fait venir 2-3 food trucks pour la partie nourriture. Et nous, on a mis en place tout simplement le bar avec les vins du domaine, les softs évidemment pour ceux qui boivent pas d'alcool, et on a mis un peu de bière aussi parce que c'est l'été.
Et capacité d'accueil à peu près ?
Alors en extérieur j'ai nos limites.
En extérieur
j'ai pas de limite de sécurité puisque
vous avez un parc qui est magnifique.
C'est ça,
et un surtout parking vraiment séparé et protégé.
Exactement. Après voilà, le parking, on a 110 places de voiture, donc de toute façon même en mordant un peu sur le chemin on arrive péniblement aux 400 personnes. Mais ça nous a permis de créer ça, de voir qu'on pouvait le faire déjà, et surtout de voir que malgré tout, c'était un des événements qui nous permettait de communiquer sur le domaine, de faire comprendre aux gens, de leur dire qu'on existait et qu'on faisait des choses autres que la location du lieu.
D'accord. Et là, à peu près, l'été, il faut compter combien de manifestations ? 4-5 durant le mois de juillet ?
4-5, parce que maintenant, ce qui se passe aussi depuis 2022, c'est que notre activité de location de salles augmente. Et du coup, on a moins d'espace pour les événements publics. Donc, l'an dernier, on en a fait 3. C'était au mois de juillet, les 3 jeudis d'affilée. Et là, cette année, ça se complique pour trouver des créneaux. Parce qu'après aussi, on voit les habitudes des consommateurs qui évoluent.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est-à-dire que nous, c'est des événements qui sont que sur réservation, mais on ne paye pas en ligne. Donc, ça veut dire que vous pouvez réserver, mais si vous ne venez pas, il n'y a pas d'impact. Sauf que nous, derrière, en back-office...
Il y a toute la logistique.
S'il y a 360 personnes inscrites, mais que vous n'êtes que 280 à venir, déjà, pour les food trucks, ce n'est pas chouette. Pour le stock des food trucks, ce n'est pas chouette non plus. Et pour nous, c'est 360 personnes. Ça se gère d'une façon, 280 aussi. Donc, ça nous fait du staff en plus, des charges en plus. Donc, c'est plein de problématiques que n'importe quel autre lieu de toute façon connaît, donc c'est pas isolé à Rue Coulon. Mais les habitudes de last minute qui sont de plus en plus prépondérantes maintenant sur l'économie, en tout cas événement, ça devient très difficile à gérer.
D'accord. Et par exemple, c'est une idée que je lance, mais certainement que tu l'as eue. Est-ce que par exemple, puisque on est vraiment dans un domaine avec une bâtisse formidable, ancienne, de faire des pièces de théâtre.
Alors,
est-ce que ça serait pas possible ? Parce que vraiment, je vois très très bien une pièce de théâtre chez vous.
Tu as absolument raison. Alors ça, nous, on le met dans la partie, on va dire, culturelle, culture et art. Et ça, pour ça, on est friand parce que c'est hyper sympa à organiser, mais ça se sponsorise. Ça se sponsorise et ça se finance. Et nous, on ne peut pas financer l'entièreté de ces événements-là. Parce qu'il faut payer les acteurs, il faut payer la scène, il faut payer la régie, les techniciens. Et on ne génère pas assez de volume de personnes pour pouvoir être rentable. Donc c'est des événements qu'on arrive à avec du mécénat, etc. Mais aujourd'hui, le contexte, ce contexte-là est compliqué.
Moi, j'avais plutôt pensé... Pardon, j'avais plutôt pensé, par exemple, qu'une troupe qui joue une pièce de théâtre dans des théâtres de Montpellier, privés comme le Kawa, comme la Chocolaterie, le Point Virgule, viennent exceptionnellement faire un off.
Bien sûr.
Donc, chez vous.
Bien sûr, mais ça, c'est tout à fait possible. Il faudrait juste qu'on se mette en contact et qu'on, oui. et qu'on trouve une date et une faisabilité aussi.
Voilà. Ouais, ça pourrait être intéressant.
Ah, bien sûr, et ça changerait.
Ça changerait.
Ça donnerait un autre regard sur le lieu et ça correspond totalement à la vision du projet de toute façon. D'accord. La vision première du projet, c'était de réinjecter des bénéfices générés pour la rénovation continue du domaine, mm-hmm. parce qu'il est quand même, dans un état assez délabré, même s'il est entretenu, mais ça mériterait quand même des refontes et des rénovations, et aussi de l'ouvrir tout simplement au public.
Bien sûr.
Donc c'était les deux volontés des propriétaires actuels, mm-hmm. c'est de l'ouvrir au public et qu'ils soient émerveillés, que les gens soient émerveillés de ce lieu, parce qu'il est vraiment...
Oui, alors...
Après, je suis jugé parti, donc...
Non, je le connais, il est très très bien. Le côté, on va dire, négatif par rapport aux autres folies, ou moins aux principales folies, c'est que de l'extérieur, ces folies sont vues. Or,
oui.
et c'est peut-être aussi peut-être un bien pour vous, c'est que soit quand on passe par la route de Sète,
oui.
la route de Toulouse, pardon, ou qu'on passe sur la voie rapide, c'est donc barré c'est par une barrière végétale.
Tout à fait.
Donc il est très difficile, il faut vraiment rentrer dans l'enceinte privée
pour voir
la beauté des lieux qui est magnifique.
C'est au tout début quand on a commencé à penser au marketing, on a dit la campagne dans la ville et c'est exactement ce qui se passe.
Ça, c'est ça.
Et on aime bien ce côté écrin. Donc c'est vrai qu'on n'est pas visible, mais le côté écrin crée toujours une surprise assez magique chez les gens.
Oui, oui.
Parce à chaque fois qu'ils viennent, ils se disent non mais on ne savait pas qu'il y avait ça.
Voilà, on s'imaginait pas. Voilà. Et même des gens comme moi qui sont montpellierains, quand je suis rentré dernièrement, c'est vrai que j'ai été vraiment ébahi parce que je soupçonnais pas cette beauté. Justement à ce propos, alors vous faites des mariages aussi.
Tout à fait.
Donc ça pas peut-être tous les samedis, mais enfin vous
avez non pas tous les samedis, mais c'est alors
là vous pouvez accueillir jusqu'à pour les
alors
les
moi mariages. je bloque à 100 personnes volontairement. 100 personnes.
Oui.
Pour plein de raisons, mais la première c'est l'expérience client, je veux qu'elle soit parfaite, et les mariages de 200 300 500 personnes, c'est une autre gestion,
c'est une autre gestion.
D'autres lieux, c'est enfin voilà, c'est moi je n'ai pas la capacité intérieure de toute façon quoi qu'il arrive d'avoir plus de 100 personnes sur les mariages. Et la seconde, c'est que les mariés, généralement, aiment ce côté dedans-dehors, qui est quand même assez prépondérant oui. à Rieux-Coulon, mais du coup ne plaît pas non plus à tous les mariés. Donc c'est vrai que les mariages, c'est essentiellement l'été pour nous.
Oui, parce que l'hiver...
Et l'été indien, là, entre septembre et octobre, parfois.
Parce que, on va dire, l'hiver, il n'y a pas une capacité suffisante
d'accueil. Je l'ai, mais je réduis la capacité d'accueil pour qu'on puisse tout faire, parce qu'un mariage, c'est pas si... Bon, enfin, tous ceux qui sont mariés et tous ceux qui sont en train de se marier, de réfléchir, savent que c'est pas si simple à organiser. Et surtout qu'il y a plusieurs scénographies dans l'événement. C'est-à-dire que vous commencez, il y a de plus en plus de cérémonies laïques, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de célébration dans un lieu de culte. C'est les gens viennent, ils prennent un officiant ou un copain, un témoin qui anime une célébration, qui met à l'honneur les mariés, leur vie, leur histoire, leur passif, etc. Et après ça, il y a un cocktail. Après le cocktail, il y a un repas assis. Et après, il y a la partie danse. Généralement, hein, je grossis un peu le trait, mais c'est comme ça, généralement, que ça se produit. Mais toutes ces scénographies-là, il faut pouvoir les accueillir à chacune. Donc moi, mon intérieur ne me permet pas d'accueillir 100 personnes et de faire une célébration laïque, et ensuite de faire un repas, et ensuite de repasser sur un autre espace avec un repas assis, et ensuite de retransformer tout ça. On peut le faire, mais ça ne plaît, c'est pas fluide. Donc, je réduis ma capacité d'accueil sur les mariages sur la période
hivernale. D'accord, donc plutôt...
100 personnes l'été, quand il fait beau,
plutôt l'été,
dehors.
Hein, plutôt l'été.
Voilà, c'est ça, plutôt l'été. Et après, en hiver, je tombe plutôt sur du 50 personnes, petit mariage, petit comité.
D'accord. Okay. Voilà. Alors, je voudrais revenir un peu sur le vin, parce que, comme tu disais, c'est quand même votre matière première.
Tout à fait.
Hein, votre première matière première rentrée d'argent. Comment tu vois, toi, l'avenir du vin par rapport un peu cette sécheresse qui est là? Est-ce que, alors que vous avez des cépages traditionnels, comme le Carignan, est-ce que dans quelques années... Compte tenu de cette sécheresse, est-ce que peut-être vous allez replanter sur des cépages portugais, grecs, qui supportent beaucoup plus la
les
chaleur
chaleurs,
que ces...
Ça, c'est vrai que c'est un vrai débat, un vrai défi, et il faut y penser aujourd'hui. Pour l'instant, les sécheresses sont bien présentes et chaque année on perd un pourcentage de récolte. La volonté actuelle, c'est de continuer à mettre en bouteille et de vendre au caveau. Mais il est vrai que une partie de nos vignes vieillissent, il va falloir replanter. Mais du coup, ça, c'est quand même une réflexion qui se fait sur les 10, 15, 20 prochaines années. Et là, pour l'instant, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de continuer à produire tout ce qu'on peut produire, mettre en bouteille tout ce qu'on peut mettre en bouteille, et assurer la survie de la production. Par contre, c'est évident qu'on est tous concernés, il n'y a pas que nous, on est tous concernés par ces problématiques-là. Mais il y a quand même une partie qui dépend des politiques et des normes Union européenne, etc.
Et justement, alors, il y a eu bien sûr ce conflit là qui a duré 15 jours. Qu'est-ce que vraiment, en termes de viticulture, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que vous attendez justement un peu de nos gouvernements?
Ah bah c'est alors moi, enfin comme je te disais. Comme je te disais, je suis plus sur la partie événement, donc la partie vigne. Je suis pas comme les vignerons qui produisent sur Rieux Coulon, mais ce que je peux dire, c'est que ce qu'on attend des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils soient reconnectés au terrain, tout simplement.
D'accord.
Nous, on est une petite exploitation, on peut pas avoir les mêmes normes qu'un grand cru en Bourgogne où ils ont 100 hectares et que sans rien faire, ils ont tout vendu. Nous, on est une petite exploitation, on est deux. On prend des tailleurs, enfin on prend des externes pour la taille et les vendanges, mais c'est tout. Après le reste, l'entretien des vignes et tout ce que ça inclut derrière, la vinification, etc., on est deux. Et donc ces personnes-là n'ont pas les mêmes problématiques, n'ont pas les mêmes attentes qu'un grand cru ou un grand domaine, d'ailleurs parfois ça peut être pire.
Tu demandes beaucoup plus de liberté.
Mais bien sûr. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on a une obligation de résultat, alors qu'en fait, il faudrait qu'on ait une obligation de moyens, tout simplement.
D'accord. Et comment tu vois, justement, avant de parler de ton avenir, comment tu vois, toi, l'avenir du vin d'ici quelques années?
Je le vois qui se complexifie.
Ici, on va dire, sur l'échelle locale.
Il est complexe, il se complexifie, et on n'est pas les seuls. On est sur une concurrence déloyale avec le reste de l'Europe. Et en fait, tant que ça ne sera pas pris en charge et pris en compte... Même s'ils doivent le savoir, hein, mais tant qu'il n'y a pas une réelle action sur le terrain pour contrer ça,
d'accord.
L'avenir il va être complexe comme il est complexe aujourd'hui. C'est juste qu'il y a les catastrophes naturelles qui vont se rajouter en plus.
Bien sûr. Okay.
Donc c'est vrai que là, on attend vraiment une réponse de nos politiques sur cette partie-là.
D'accord. Il nous reste 2 minutes d'émission. Eh bien, maintenant, je vais te poser. Alors, tu m'as répondu à l'avenir du vin. Comment toi tu vois ton avenir au Rieux Coulon dans quelques années?
Au Rieux Coulon, écoute, je le vois rempli de challenges et de projets, mais notamment on a déjà évoqué le sujet, mais c'est de pouvoir continuer à ouvrir le lieu, d'autres espaces du lieu au public. Et là, il y a vraiment des pépites qui me tardent de vous mettre à jour et qu'on puisse l'ouvrir au public parce que c'est vraiment magnifique. Et après, continuer à faire vivre des personnes, du travail de l'événementiel, de faire rayonner le lieu auprès de nos prestataires avec qui on travaille régulièrement, mais comme aussi nos clients, et surtout de faire en sorte que les gens soient toujours heureux de venir à Rieux Coulon.
Mais je vois que tu es un homme heureux, je vois que tu respires la passion de ton métier, parce qu'en somme, ce que tu fais... Tu l'as choisi à travers ton cursus universitaire.
Tout à fait.
Donc tu es dans ton élément.
Tout à fait. Puis de toute façon, si je prenais pas du plaisir à donner du plaisir aux gens, je serais pas là.
Mais malgré la concurrence, alors ça sera ma dernière question avant de conclure. Est-ce que vous avez de la concurrence? Alors peut-être au niveau local, c'est-à-dire
bien
côté
sûr.
Nord de Montpellier, côté ouest de Montpellier, Saint-Jean. Il y a des domaines.
Il y a des domaines. Il y en a partout. Il y en a qui poussent tous les jours dans la RPI, en périphérie, etc. Après, moi, je suis pas...
L'avantage, c'est que vous êtes vraiment dans Montpellier, donc vous touchez quand même une clientèle montpelliéraine.
Tout à fait.
Vraiment au pourtour quand même aussi.
C'est vrai que notre positionnement géographique est
pas mal,
très avantageux.
Pas loin de l'autoroute aussi.
Exactement, on est entre deux autoroutes. On n'est pas loin des gares, on n'est pas loin de l'aéroport. On n'est pas loin du Pic Saint-Loup non plus, qui est quand même une très belle région, à la fois viticole et en termes de géographie. Donc,
pas loin de la mer
et pas loin de la mer, donc on est quand même assez stratégique là-dessus, sur cette partie-là. Après, évidemment, il y a toujours... y a toujours de la concurrence, mais enfin, moi je vois pas la concurrence comme un défaut, c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'il y a de la demande. Donc,
très bien. Voilà. Ok. Avant de conclure, donc, c'est le domaine du Rue Coulombe qui est avenue donc, du Rue
de Toulouse.
Peut-être un mail que tu puisses dire si les gens veulent te.
Bien sûr, donc nous on s'appelle Rue Coulombe Événement. Alors c'est, on a été obligé de séparer la partie domaine, appellation domaine, parce qu'elle appartient au vigneron. Donc du coup, il y a domaine de Rue Coulombe sur la partie vigneron et Rue Coulombe Événement pour la partie événementielle, tout simplement.
Très bien, le message est passé, c'est vraiment un lieu qui est magnifique, donc je vous encourage quand même à aller voir le domaine du Rue Coulombe, qui fait partie donc des folies du XVIIIe siècle, donc autour de Montpellier. Voilà, chers amis, j'espère que l'émission vous aura plu, je vous souhaite de passer une agréable après-midi, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Si l'on en parlait. Voilà, bon après-midi à tous, au revoir. Big up the crew in the area. Still have